rencontrer mes invités du jour. Je me rends au centre-ville de Bienne, non loin de la place centrale. Leur société Mêlée BSA se trouve depuis quelques mois dans un immeuble locatif à proximité du canal de la Suze. Arrivé devant la porte, j'observe les noms sur les boîtes aux lettres lorsqu'une jeune femme entre dans le bâtiment. Je la suis, elle tourne à gauche et se dirige vers une porte au rez-de-chaussée. J'aperçois alors un panneau avec le nom de la firme et interpelle la jeune femme. Je crois que nous allons à la même place. Arrivé dans les locaux de Mêlée, je suis accueilli par la nouvelle co-directrice. Elle m'invite à la suivre et m'installe à une petite table dans un hall d'accueil. De ma place, je peux voir plusieurs pièces, dont un bureau et l'entrée d'une salle de réunion, mais aussi une vitrine remplie de divers appareils, des cartes de remerciement affichées contre un mur et une grande toile explicative sur l'énurésie nocturne, une maladie qui touche chaque année plusieurs dizaines de milliers d'enfants en Suisse. Derrière ce terme médical un peu abstrait se trouve un problème assez commun que tout le monde connaît, le pipi au lit. Mais les BSA fabriquent depuis 85 ans un dispositif d'alarme qui permet de soigner cette pathologie, le pipi stop. Le temps que je découvre les lieux, nous sommes rejoints par le co-directeur. Mes deux interlocuteurs sont cousins, ils ont repris la société l'an dernier et poursuivent ainsi une longue tradition. Ils sont en effet la troisième génération à diriger l'entreprise familiale. Christine Calderara, Pascal Emerly, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Sortie de boîte, Alexandre Steiner.
Alors une question pour vous deux. Tout d'abord, vous avez succédé il y a quelques mois à vos parents respectifs. Ça met la pression de reprendre une société qui a 85 ans d'existence?
Oui, alors c'est pas évident, surtout que reprendre la direction d'une entreprise, ça demande aussi énormément de responsabilités. Donc c'est le début d'une grande aventure, mais aussi de beaucoup de responsabilités. Mais par contre, on prend chaque tâche comme elle vient et puis on la fait vraiment du mieux qu'on peut pour que ça se passe bien.
Pour vous, Pascal et Merly, c'est aussi impressionnant de se retrouver à cette fonction-là?
Je pense que le plus important, le plus significatif pour moi, c'était l'aspect de continuité. Donc il y a bien sûr une transition entre les générations. Ça a commencé avec mon grand-père, c'était nos parents. Et maintenant, c'est nous qui reprenons le flambeau. Mais c'est cette préservation de la continuité qui était l'élément central pour moi.
Christine Calderara, est-ce que pour vous, ça a toujours été clair que vous souhaitiez poursuivre l'aventure familiale?
Alors oui, déjà depuis bien quelques années, donc déjà quand j'étais au gymnase à Bienne, c'était une question qui m'est venue où j'ai demandé déjà à mes parents, est-ce que un jour je pourrais rejoindre l'équipe de Mêlée pour faire cette aventure avec vous. Et puis donc il n'y avait pas de place à l'époque pour moi encore, donc du coup j'ai fait le métier d'assistante en pharmacie, et puis c'est quelques années plus tard que j'ai pu rejoindre l'équipe avec grand plaisir.
Et donc cette formation et cette première carrière, c'était déjà dans cet objectif-là
Voilà, exactement, tout à fait, par rapport au conseil client aussi, donc le fait d'être dans le domaine de la santé, de pouvoir vraiment aider le prochain, parce qu'il y a tellement d'enfants justement aussi qui souffrent de ça, donc c'est vraiment chouette de pouvoir les accompagner, d'être là pour eux, et puis de faire de ce sujet plutôt tabou, vraiment un accompagnement, et qu'ils sachent que la thérapie existe et qu'on est là.
Pascal Emerly, de votre côté, vous avez d'abord envisagé des études de physique avant de vous orienter notamment vers le grec ancien et la philosophie. Vous vous êtes ensuite lancé dans le web design. La vocation pour l'entreprise familiale, c'est venu sur le tard de votre côté?
Disons que d'une part, c'est quelque chose qui faisait partie de ma vie depuis toujours. Donc le fait que nos parents étaient impliqués là-dedans, donc c'est resté dans le background de mon existence. Mais au moment où il y avait cette question de passer le flambeau plus loin, d'abord j'étais hésitant. Parce que c'était un moment où j'étais très impliqué dans l'entreprise que je développais sur le canton de Fribourg, qui existe toujours, qui continue. Et c'est mon père qui a su venir manger avec moi et me convaincre de l'importance stratégique du moment pour entrer dans Mêlée.
Vous l'avez dit, vous le disiez dans votre biographie, dans le dossier de presse que vous avez préparé, que vous souhaitiez honorer aussi la mémoire de votre grand-père, Ernst Bierry, l'inventeur du pipi stop. C'est un personnage qui a marqué votre vie.
Bien sûr, oui. Avec ma cousine, on l'a connu les deux très bien. Il était drôle, il était extrêmement créatif. Toute sa vie, il a essayé de trouver des solutions pour des problèmes. Il a beaucoup travaillé avec des paysans. Il a fait vraiment 10-15 inventions importantes qui ont marqué l'histoire de la paysannerie suisse, je dirais. Et au-delà, il y a aussi eu des inventions qui ont été vendues à toutes les fanfares de Suisse, etc. Des Liralux, par exemple. Donc, c'est un héritage d'avoir eu ce grand-père-là, d'avoir... En fait, le problème du pipistop, si je peux dire ça, c'est... ça a été découvert, enfin, c'était connu déjà à l'époque d'Aristote. Donc, dans les textes du philosophe grec Aristote, il y a environ 2400 ans, je pense, il avait décrit les symptômes et c'était connu. Mais c'est notre grand-père qui a trouvé la meilleure solution qui existe jusqu'à ce jour, il y a 85 ans.
Alors, pour en revenir aux sources, hein, justement, nous sommes en 1932 à Laupen, dans le canton de Berne, lorsque votre grand-père, alors âgé de 18 ans, décide de créer cet appareil pour aider les enfants à ne plus faire pipi au lit. Comment est-ce que lui est venue cette idée ?
Alors, en fait, il avait un frère qui faisait pipi au lit. Et puis, ça posait un problème à l'époque parce qu'il n'y avait pas les couches jetables ni les lessives et les tumblers qu'on a aujourd'hui. Et puis, il a voulu aider sa famille, surtout sa maman aussi, dans cette situation. Et puis, il a donc, il s'est dit, comme je suis apprenti électricien, je vais essayer de trouver une solution. Il a observé son frère pendant la nuit. Et puis, un moment vraiment juste avant la miction, où il a vu son frère bouger sans toutefois se réveiller. Et il s'est dit, mais je pourrais en fait faire quelque chose qui va réveiller l'enfant à ce moment-là. Et puis, il s'est dit, ben voilà, je vais faire cet appareil. Et puis, non seulement il a vu que son frère retenait son urine plus longtemps, mais il a arrêté de faire pipi au lit.
Alors donc un premier succès avec cette invention, il est parvenu à guérir son frère, mais ça reste encore très confidentiel, hein, il souhaite partager sa trouvaille. Alors il va recevoir l'aide d'un médecin. Racontez-nous un peu comment l'idée d'un jeune homme qui était votre grand-père s'est transformée en une véritable entreprise familiale.
Mais il a compris qu'il tenait une solution pour un problème qui était assez répandu, donc il allait voir son médecin de famille, qui lui-même a accepté d'essayer le pipistop avec des patients qu'il avait en pédiatrie. Et ça a fonctionné, le pipistop venait en retour, les enfants pouvaient dépasser ce problème grâce à cette thérapie. Donc c'est vraiment l'appareil plus tout l'accompagnement de l'enfant par les parents qui permet à l'enfant de dépasser ça. Et ce qui s'est passé après, c'est qu'il a posé une patente en 1936. Après, il a commencé à commercialiser. Donc depuis cette époque-là jusqu'à aujourd'hui.
Et puis jusqu'à l'an dernier, votre famille donc gérait entièrement l'entreprise, hein, qui était installée à Crécy et à La Neuville. Depuis septembre, vous êtes installé à Bienne. Alors vous gérez toujours l'entreprise, mais vous avez engager des personnes externes. Pourquoi ce changement de lieu et de fonctionnement aussi ?
Bon, ce qui s'est passé, c'est que donc, les parents de Christine et mes parents, ils étaient les quatre, ils ont fondé, eux, l'entreprise Mélébiessa, qui avant existait sous un autre nom. Et ils l'ont exploité dans leur maison privée, comme vous avez dit. Mais là, c'était le moment où ils partaient gentiment à la retraite. Donc il fallait maintenant centraliser l'entreprise dans des bureaux professionnels qui n'étaient pas dans des maisons privées. Et ça, on a fait en allant à Bienne. Aussi, le choix de Bienne, c'était important parce qu'on est vraiment une entreprise bilingue sur le français et l'allemand. On fait aussi tout en anglais, en italien, mais c'est ce bilinguisme des deux langues principales de la Suisse, c'était important. Donc on a décidé d'aller s'installer à Bienne.
Alors vous avez aussi aujourd'hui, vous compris, sept collaborateurs, hein, certains à temps partiel. Est-ce que c'est difficile aussi de s'ouvrir et d'engager des personnes qui ne viennent pas de la famille, ou est-ce qu'au contraire, ça apporte aussi un bol d'air frais dans le fonctionnement ?
Alors moi, je trouve que ça donne vraiment un grand bol d'air frais, bien sûr. Surtout que notre collègue ne connaissait pas du tout la thérapie en question. Et puis encore aujourd'hui, elle m'a dit, mais quand je parle de ça aux gens, ils me disent, mais comment ça, tu travailles chez Mélébi avec le pipistop, comment c'est, qu'est-ce que c'est ? Donc c'est vraiment un sujet qui est très méconnu, parce que c'est un sujet qui reste tabou. Donc c'est chouette de pouvoir voir ça aussi de son côté. À elle.
Alors justement, le produit, on va en parler. Nadia est venue vous rendre visite à Bienne pour découvrir le pipistop. Christine Calderara, vous lui avez fait découvrir vos locaux et le fonctionnement de votre appareil. On écoute son reportage.
Sortie de boîte.
Quand on entre, donc on a le salon avec le musée du pipistop. Donc les tout premiers pipistop en carton et en bois qui ont été inventés par mon grand-papa, donc en 1932-33 les premiers. Et puis ensuite, on voit vraiment l'évolution étage par étage qui passe vraiment près de 1974, 2000. C'était le premier appareil sans fil, donc une étape très importante pour nous, c'était la libération des télécoms. Et donc pour nous, c'était vraiment super, parce qu'avant, les fréquences étaient très chères, et après, quand elles étaient disponibles, on a vraiment pu faire le premier appareil sans fil, ce qui était vraiment super au niveau du confort pour le client. Et puis jusqu'au l'appareil d'aujourd'hui, qui est en fait de 2010. Ce qui se passe, c'est que le facteur nous amène les paquets le matin, on les déballe, et on entre dans la base de données, donc le retour de l'appareil, on envoie au client un email pour dire que l'appareil était bien de retour et qu'on le remerciait. Et puis ensuite, quand les appareils sont tous déballés, donc ça se passe ici, dans la pièce logistique. Et là, une fois qu'ils sont déballés, que tout est rentré dans l'ordinateur, on a tout scanné, on va ensuite les poser dans l'atelier qui se trouve là-bas. Et puis là, c'est vraiment un atelier qui sera utilisé que pour le nettoyage de l'appareil. Donc vraiment nettoyer, désinfecter, réapprêter, réparer, et puis pour que ça puisse repartir chez le prochain client.
Un pipi-stop, si on regarde celui-ci, comment ça marche? Si par exemple j'ai 5 ans et puis qu'on devait me le placer pour la nuit, comment on ferait?
Alors, on prend le détecteur d'urine. On a deux grandeurs de détecteur. Donc, on a le petit qui va à partir de 5 ans jusqu'à 9 ans et à partir de 10 ans, le plus grand. Et dessus, on clipse l'émetteur. C'est égal dans quel sens? Avec des boutons pression. Et puis, une fois qu'il est installé dessus, on l'emballe dans la serviette qu'on envoie avec le pipi-stop et ça se place comme ça à l'intérieur du slip. Et puis le récepteur, ensuite il est sur la table de nuit de l'enfant et on y met l'alimentation. Donc on met la prise et puis de l'autre côté on a l'embout qui s'enfile comme ça. Voilà, et il y a 16 échelons au niveau du volume qu'on peut régler. Et puis une fois que les premières gouttes d'urine, elles sortent, ça va se mettre à sonner pour dire c'est le moment, la vessie elle est en train de se vider, il faut retenir cette vessie pleine.
Sortie de boîte.
Alors on vient d'entendre l'alarme sonner, comment est-ce que vous faites pour garantir qu'elle sonne au bon moment et pas quand l'enfant transpire par exemple?
Alors notre détecteur d'urine est vraiment à la pointe par rapport à ça, donc c'est vraiment elle détecte l'urine mais pas la transpiration. Après, si ça arrive qu'un enfant transpire beaucoup, on va plutôt conseiller de mettre ce détecteur d'urine entre deux paires de slips pour justement éviter une fausse alarme si ça pourrait arriver. Mais normalement ça n'arrive pas parce que c'est vraiment des détecteurs faits pour ça.
Et donc au début, on ne réveille pas forcément l'enfant, mais en général plutôt ses parents. Comment ça fonctionne le début d'une thérapie, disons, avec ce produit?
Non, en fait, le problème principal des enfants qui sont touchés par l'oniresie, c'est qu'ils ne se réveillent pas. Ils ont un sommeil tellement profond qu'ils ne vont pas se réveiller pendant la nuit. Donc les parents vont devoir intervenir, mais pour réveiller l'enfant. Donc là, il y a tout le monde qui se réveille. Il faut que les parents aident l'enfant à se réveiller, à prendre conscience qu'il y a une miction qui s'est passée au milieu de la nuit. Et c'est en gardant cette conscience qu'on vérifie le matin s'il se rappelle que ça s'est passé aussi, qu'il va pouvoir commencer à développer ce réflexe de Pavlov. Ça va mettre en branle, si on veut, dans son organisme, une hormone qui va aussi aider à concentrer son urine, donc qui va naturellement faire qu'il va pouvoir garder plus d'eau dans son corps et il aura moins d'urine. Et tout le mécanisme, en fait, se met en route pour qu'il guérisse ensuite naturellement.
Alors dans le reportage, hein, on comprend aussi que vous ne vendez pas vos appareils, mais que vous les louez. Pourquoi avoir choisi ce modèle de diffusion-là?
Bon, en Suisse, en fait, si je refais un petit flashback avec l'histoire de mon grand-père, donc ça a commencé dans les années 30. Ensuite, ça a évolué et ça a en fait déclenché aussi de la recherche. Donc, cette thérapie, il y a eu beaucoup d'investigations qui ont été faites dans différents pays en Europe et aux États-Unis. C'est quelque chose qui est aujourd'hui reconnu par la LAMAL en Suisse. Donc, c'est pris en charge par la LAMAL. Et justement, ce qui est pris en charge, c'est la location. Si les personnes demandent une ordonnance à leur médecin, la LAMAL prend en charge la location de l'appareil pendant la durée de la cure.
Alors justement, si un enfant souffre d'énurésie nocturne, la démarche, c'est d'aller voir son médecin pour pouvoir accéder à l'un de vos appareils. Cela signifie aussi que vos revenus dépendent largement des décisions des médecins et des conditions de remboursement fixées par l'assurance maladie obligatoire. Ça provoque une certaine incertitude pour vous de dépendre de ces conditions-là?
Bon, c'est sûr, maintenant il y a une révision qui est en cours de la LAMAL, donc du point de vue de la LAMAL, ils ont des critères et ils doivent bien sûr essayer de réduire ou de minimiser les coûts de la santé. Après, de notre point de vue à nous, comme nous on propose le pipi-stop, c'est crucial que que les taux de remboursement actuels soient maintenus, sinon ça va mettre une pression en fait aussi sur la qualité de ce qu'on peut offrir, parce que non seulement on loue le pipistop, mais ce qu'on fait aussi, et ça c'est une sorte d'effort supplémentaire, on appelle chaque famille qui a ce problème-là et on fait du conseil au téléphone. Et le conseil au téléphone aide les parents déjà à savoir comment prendre en main cette cure avec leur enfant, avec tout l'aspect aussi psychologique de ce qui se passe dans la cure, mais aussi de les aider pratiquement à faire les gestes justes et les choses justes pour réussir cette thérapie avec le pipistop.
Alors la patente de votre grand-père est arrivée à échéance depuis longtemps et d'autres acteurs ont lancé des appareils similaires. Vous êtes 5 ou 6 en Suisse à proposer ce type de solution. Il y a aussi des médicaments qui permettent de lutter contre les nuisances nocturnes. Alors cette partie, là vous le disiez, vous avez toute cette partie conseil, c'est ça qui vous permet vraiment de vous démarquer et peut-être de convaincre les médecins de prescrire votre solution plutôt qu'une autre, ou est-ce qu'il y a aussi d'autres choses sur lesquelles vous jouez pour influencer pour que les médecins vous conseillent vous plutôt qu'un autre?
Oui, il y a deux aspects dans la question que vous posez. La première, c'est donc le choix de la thérapie. Soit c'est la thérapie avec appareil, avec alarme, comme le pipistop, soit c'est la desmopressine, qui est une solution médicamenteuse, qui en fait fonctionne avec un taux de succès plus bas et surtout qu'un grand taux de rechute une fois qu'on arrête de la prendre. Et elle a aussi des fois des effets secondaires pour environ 7% des enfants. Donc la solution par alarme, elle se positionne mieux sur le marché. Elle a pris vraiment aussi le dessus maintenant depuis une dizaine d'années parce qu'elle est naturelle, elle déclenche en fait les réflexes du corps. Après, la deuxième partie de la question, c'est comment on se différencie de notre concurrence. Alors je pense qu'une des choses, c'est vraiment de pas justement seulement proposer l'appareil. On pense que le nôtre est le meilleur. Je pense que peut-être qu'on débattra de ça, mais on pense qu'on a un très bon appareil. Mais c'est aussi toute la thérapie qui va autour, donc le conseil client. Par exemple, sur notre site web, on a donné tous les détails de comment bien faire la thérapie. Et on fait aussi ce support téléphonique très complet et proactif qui permet d'avoir un très bon taux de succès.
Vous avez aussi édité un petit livre pour enfants, hein, pour expliquer le problème. Des fois, c'est délicat. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, c'est un sujet tabou. Ça aussi, c'est important pour vous, cette proximité et puis ce contact avec les enfants et les familles pour leur montrer que finalement, c'est un problème qui se guérit et qui n'a rien de grave, pour dédramatiser.
Voilà, tout à fait. Donc aussi, le petit livre qui a été fait pour les 80 ans du pipistop, on le donne avec chaque pipistop qui part chez la famille. Et puis, c'est vraiment un soutien pour toute la famille. Donc aussi, les enfants, on a des bons retours. Les enfants remarquent aussi qu'ils ne sont pas seuls dans cette situation, qu'il existe beaucoup d'autres enfants aussi. Et puis ça les motive aussi. C'est vraiment une source de motivation pour eux de se dire je ne suis pas seule, je peux aussi y arriver comme les autres.
À la différence de certains de vos concurrents, le pipistop est entièrement fabriqué en Suisse, dans le Seeland. Qu'est-ce que le Swiss Made apporte à un produit comme le vôtre finalement?
Bon, je pense que c'est la qualité du produit, ça c'est très important pour nous, donc d'avoir vraiment un appareil qui est très fiable, parce que plus on peut réduire les problèmes qui viennent de l'appareil, plus on a des chances que la cure réussisse. Et comme c'est quand même, on a envie que la cure avance vite, si l'appareil encore cause des problèmes ou bien fait des fausses alarmes, ça va ralentir le taux de succès.
Lors de notre première rencontre, Pascal Emerly, vous n'avez pas souhaité me donner des chiffres concernant vos affaires, hein, par exemple le nombre d'appareils en circulation ou bien le coût de production. Vous êtes dans un secteur où les concurrents s'observent beaucoup.
Non, je ne sais pas si on s'observe vraiment beaucoup, mais on est peu, donc on sait qui sont les autres qui font la même chose. Personnellement, moi, je suis assez content que d'autres le fassent aussi. Donc, c'est pas tellement dans mon esprit, dans notre esprit, le cas de vouloir absolument prendre des parts de marché, entre guillemets. Mais c'est plutôt l'idée de faire connaître cette solution, parce que c'est la meilleure solution. Et parce qu'il y a des dizaines de milliers d'enfants en Suisse qui ont ce problème, et certains ne vont pas rencontrer ou connaître cette solution. Et du coup, soit ils ne vont rien faire du tout, et des fois, ça dure long avant que ça se résolve tout seul, soit ils vont utiliser justement la solution médicamenteuse qui est franchement moins bonne.
Pour l'avenir, vous m'avez dit aussi que votre potentiel de développement est encore important. Vous travaillez notamment beaucoup pour faire connaître votre solution dans les milieux médicaux. Comment expliquer qu'elle ne soit pas plus connue alors qu'elle existe depuis 85 ans et qu'elle est efficace dans 90% des cas avec un taux de rechute assez faible?
Je pense que c'est une question plutôt pour les gens qui sont du côté médical, pour les docteurs. Mais ce que je peux imaginer, c'est qu'un généraliste ou un pédiatre, il a énormément de maladies différentes à traiter. Donc l'énurésie, c'est un des problèmes possibles. Donc peut-être qu'il en entend parler dans ses études à un moment donné. Mais après, quand le cas se présente, la première fois, il doit maintenant savoir exactement qu'est-ce qu'il va décider dans ce cas-là. Donc c'est pour ça que notre travail, c'est aussi d'essayer de rencontrer, c'est Christine qui fait aussi beaucoup ça, de rencontrer les médecins. Maintenant, d'ailleurs, aujourd'hui et demain, elle est au congrès des pédiatres. suisse. Donc c'est l'idée d'aller chercher aussi ce contact avec les médecins pour qu'ils comprennent la thérapie, qu'ils comprennent que c'est une solution qui va vers le côté naturel et pour qu'ils la prescrivent et qu'ils aident des enfants.
On l'a évoqué avant, un des défis qui vous attend, c'est aussi la révision des tarifs remboursés par l'assurance maladie obligatoire. S'ils sont revus à la baisse, quelles seraient les conséquences pour vous ?
Je pense que le risque, c'est un peu ce que j'ai dit avant, le risque principal, s'il y a une baisse, c'est qu'on devra peut-être compromettre sur la qualité de ce conseil client, en fait. Parce qu'on n'aura plus les moyens, ce sera difficile pour nous de maintenir la même qualité en termes de support téléphonique, par exemple.
Est-ce qu'on pourrait imaginer un déplacement de la production ailleurs qu'en Suisse aussi, ou ça, vous y tenez vraiment à avoir un produit suisse ?
Moi, je pense que c'est bien de produire en Suisse. Et, enfin, pour l'instant, en tout cas, la qualité, la meilleure possible, elle était avec ce schéma-là, avec des partenaires locaux.
Alors, l'invention de votre grand-père, hein, le Pipistop, a traversé le temps. C'est aussi le cas de certaines montres cultes, comme nous l'explique Marie-Lise Saillard dans sa chronique horlogère.
Pile à l'heure.
C'est l'histoire d'une montre. Une montre en or blanc 18 carats dont la lunette est pavée de 44 diamants ronds. Oh, river, and me. C'est une montre Omega, calibre 510, à remontage manuel, mais customisée par la célèbre joaillerie américaine Tiffany. À l'arrière, une gravure nous indique à qui cette montre a été offerte et à quelle occasion. La carrière d'Elvis Presley commence avec cette chanson en 1954 chez Sun Records. Deux ans plus tard, son contrat est racheté par RCA Victor et Elvis décroche son premier numéro 1. À Noël 1960, le King atteint le cap incroyable des 75 millions de disques vendus, une première dans l'histoire. Pour fêter ça, le label RCA Records organise un concert spécial le 25 février 1961 et lui offre la fameuse Omega Certi, marquée Tiffany & Co. et gravée. Presley avait le sens du rythme, un sacré jeu de jambes, et il avait l'œil. S'il aimait quelque chose chez un de ses interlocuteurs, il lui disait. Ainsi, un jour, il remarque la montre Hamilton, sertie de diamants, que porte un de ses admirateurs. Le King le complimente à ce sujet, l'homme lui donne sa montre, et en échange, il reçoit celle que portait le chanteur ce jour-là, la fameuse montre Omega by Tiffany. C'est le neveu de cet homme qui a hérité de la montre d'Elvis. Il a décidé de la mettre en vente. Chose faite, le 12 mai dernier à Genève. La pièce unique était estimée entre 52 000 et 104 000 francs. Elle a finalement été adjugée pour près d'1 812 000 francs. L'acquéreur ne serait autre que le musée Omega de Bienne.
Pile à l'heure.
Nous sommes de retour avec nos invités. Avant de vous quitter, comment voyez-vous la suite de cette aventure familiale qu'aimaient les BSA et le Pipistop ? Est-ce que vous préparez déjà la relève aussi ?
Alors, surtout dans le sens qu'on aimerait vraiment faire connaître cette thérapie à tout le monde, encore plus. Donc, aller visiter les médecins et puis faire encore les congrès et puis faire aussi de la publicité pour que les gens nous connaissent.
De votre côté, Philippe
de
Marie.
Pascal Merli, pas de problème. Non, moi, je pense que le focus principal, là, on vient de reprendre le flambeau, donc on n'a pas tellement en tête déjà la génération en cours suivante, bien qu'elle existe déjà. Mais le focus, c'est de réussir à innover en rendant plus simple les processus internes de gestion de l'entreprise et d'exploitation de l'entreprise pour pouvoir gagner du temps, être efficace et pouvoir aussi tenir le coup dans le cas où, par exemple, les prix changeaient.
Christine Calderara et Pascal Emerly, merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de votre entreprise. Je vous souhaite une excellente soirée.
Merci beaucoup, bonne soirée.
Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup.
Et si vous souhaitez réécouter cette émission, vous la retrouverez en intégralité sur notre site internet. La semaine prochaine, sortie de boîte plonge dans les petits caractères et les emballages du côté de Saint-Imier. Alizé Lichty sera en compagnie d'Éric Brechbühl, le directeur de l'imprimerie Juira et Chervet. D'ici là, une excellente soirée.
Sortie de boîte.